Merci aux élèves de l'atelier science pour la qualité de ce débat. Mais ce n'est pas fini.
On ne va pas se quitter comme ça, ce serait dommage.
Eh oui, nous allons continuer à les écouter, mais cette fois-ci sous une forme différente, ils vont discuter. Ben oui, c'est aussi sympa de discuter cordialement. Allez, écoutons-les, ils vont parler du consentement, autrement dit un sujet super important.
Esprit critique.
Société, actualité, les élèves font les tours de l'info.
Esprit critique.
L'actu vue par les élèves.
Quand les élèves décryptent l'info.
Esprit critique.
Alors aujourd'hui, on se retrouve pour, dans un premier temps, sur l'affaire Mazan.
Ensuite, on va parler de la question, on va débattre sur la question du consentement.
Intéressant. Et nous allons parler de la loi Evras. Pour commencer, on va directement se situer dans la ville de Mazan. Alors, l'affaire des viols de Mazan, également connue sous le nom d'affaire Pellicot, est une affaire judiciaire française d'une gravité exceptionnelle. Entre juillet 2011 et octobre 2020, Dominique Pellicot est un électricien retraité de 71 ans résidant à Mazan. A drogué sa femme Gisèle Pellicot à son insu, permettant à au moins 83 hommes de la violer alors qu'elle était inconsciente. Ces agressions ont été filmées par Dominique Pellicot, son mari, qui partageait ses enregistrements sur des forums en ligne dédiés aux fantasmes sexuels extrêmes. L'affaire a été révélée en 2020 lorsque Dominique Pellicot a été arrêté pour avoir filmé sous les jupes de femmes dans un supermarché. Lors de la perquisition de son domicile, les enquêteurs ont découvert des centaines de vidéos documentaires les viols de sa femme. Gisèle Pellicot, qui souffrait des pertes de mémoire inexpliquées et de problèmes de santé pendant cette période, ignorait totalement les services qu'elle subissait. Le procès s'est ouvert le 2 septembre 2024 au palais de justice d'Avignon. 51 hommes, dont Dominique Pellicot, a comparu pour viol aggravé. Parmi eux, des personnes de divers milieux professionnels. Un ancien policier, un agent pénitentiaire, un militaire, un pompier, un fonctionnaire, un journaliste, un conseiller municipal, des infirmiers, un directeur d'entreprise ou encore un magasinier. Ils encouraient des peines allant jusqu'à 20 ans de prison. Gisèle Pellicot, avec le soutien de ses enfants, a renoncé à son droit à l'anonymat. Elle a insisté pour que le procès soit public et a déclaré témoigner au nom de toutes les femmes victimes de violences sexuelles.
« La honte doit changer de camp », a-t-elle affirmé. De grandes manifestations ont suivi cette affaire de près pour lutter contre les violences sexuelles.
Le 19 décembre 2024, Dominique Pellicot a été condamné à 20 ans de prison pour viol aggravé et pour avoir recruté des hommes en ligne afin de violer sa femme à leur domicile.
La plupart des 50 accusés ont aussi été reconnus coupables, avec des peines allant de 3 à 5 à 15 ans de prison.
Cette affaire a suscité une indignation nationale et internationale, soulevant des questions profondes sur le consentement, les violences sexuelles et l'exploitation en ligne en France. L'affaire des viols de Mazan met en lumière l'importance cruciale de la prévention du consentement et de la nécessité d'une sensibilisation accrue aux violences sexuelles.
Ce drame rappelle que l'absence d'un non ne signifie pas un oui, notamment lorsqu'une victime est inconsciente ou sous l'emprise de substances.
Donc on va passer sur la suite du podcast.
Bah oui.
Si vous le voulez. Allons-y. Bien.
À toi.
Donc Maya, tu l'as évoqué plusieurs fois, mais tu parles pas mal de fois du consentement.
Ouais.
Et justement des lacunes qui sont dans la loi. Et justement, j'aimerais revenir dessus. Cette affaire, elle a mis en lumière des lacunes dans la législation française concernant la notion de consentement en matière de violence sexuelle. Je vais vous lire l'article 222-23 du code pénal. Le viol est défini comme tout acte de pénétration sexuelle, donc comme tu l'as dit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. En revanche, ça ne mentionne pas du tout le consentement. Il n'y a pas de oui ou de non.
Ça le mentionne juste subtilement. Quoi.
Voilà, c'est plus comme un acte barbare qui est violent.
Ouais.
Donc, lors du procès, la défense a tenté de minimiser la gravité des actes en arguant que certains accusés pensaient participer à des jeux sexuels consensuels. Gisèle Pellicot, la victime, a fermement refuté ces allégations, déclarant « Pas une seule seconde, je n'ai donné mon consentement à Monsieur Pellicot ni à ces hommes qui sont derrière. » Cette source nous provient de publicsena.fr. Donc cette affaire a relancé le débat sur l'introduction explicite du consentement dans la définition légale du viol. Des propositions de loi ont été déposées en ce sens et le ministre de la Justice, Didier Migaud, s'est déclaré favorable à cette évolution législative. En octobre 2024, il y avait une proposition de loi visant à intégrer la notion de consentement explicite dans la définition du viol. mais ça n'a pas été adopté. Malgré le soutien du ministre de la Justice Didier Migaud et du président Emmanuel Macron, la dissolution de l'Assemblée nationale a interrompu le processus législatif et le débat il se poursuit donc sur l'opportunité d'introduire explicitement le consentement par la définition légale du viol en France.
Mais pourquoi c'est aussi long ? Il devrait juste écrire dans la loi.
Ben justement, je vais y venir. En fait, ça fait débat. Il y a les avocats et les juristes. Il y a deux teams.
Parce qu'il y en a qui veulent pas.
Ouais. Et je vais expliquer pourquoi. En fait, c'est.
Ok, pardon.
C'est un petit peu un casse-tête. Pourquoi ? Parce que certains juristes et associations estiment que cette modification est nécessaire pour mieux protéger les victimes. Donc, c'est logique. Mmh. En revanche, d'autres craignent que cela ne complique les procédures judiciaires en recentrant l'attention sur le comportement de la victime. En l'absence de réforme législative, la jurisprudence continue de s'appuyer sur les notions de violence, contrainte, menace ou surprise pour caractériser le viol, ce qui peut limiter la reconnaissance de certaines situations où le consentement n'est pas clairement exprimé.
Et pour les élèves débrouillards, c'est quoi le consentement ?
C'est quand j'ai dit oui.
C'est important pour savoir si la fille elle a envie ou pas, donc c'est important de savoir si la personne est consentante en fait.
Pour moi, le consentement, c'est avoir l'autorisation d'une personne, d'avoir son consenti, d'avoir ce qu'elle pense, ce qu'elle veut, son autorisation.
C'est quand deux personnes sont en accord sur une décision qu'ils vont prendre en commun.
C'est quand la personne est dit oui, tout simplement.
Bon, du coup, on parlait de la loi sur le consentement, un sujet essentiel pour protéger les plus jeunes et sensibiliser au respect des limites de chacun. On reste dans la continuité avec un autre débat brûlant, l'éducation à la vie affective et sexuelle à l'école.
Est-ce que vous avez déjà eu envie de violer une femme ?
Oui, d'une certaine façon. Ça m'est arrivé.
Vous avez déjà violé une femme ?
Non, je serais incapable de le faire.
Sa femme, c'est marrant.
Qui sont les violeurs, d'après vous ?
Et les traqués, certainement. Les gens refoulés.
Uniquement ?
Je pense pas que quelqu'un d'équilibré pense à violer une femme.
Vous avez déjà violé des femmes ?
Oui.
Donc, en effet, les mentalités du XXe siècle étaient extrêmement misogynes. Afin de régler ces problèmes, l'éducation enseigne les bases aux plus jeunes.
Mais je trouve ça hallucinant, ce qu'ils disent, même au XXe siècle.
Ah oui.
Ces mentalités-là, ça devrait
vraiment
jamais avoir été
expliqué. Ils s'en cachent pas du tout.
Depuis quelques jours, pour en revenir à cette loi.
Loi Evras. Depuis quelques jours, une pétition adressée au ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, réclame son retrait. Elle accuse ce programme d'exposer les enfants à des notions inadaptées. Plus de 13 000 signatures ont déjà été récoltées. Vous vous rendez compte, 13 000. Mais qu'en est-il vraiment ? Sur les réseaux, la contestation s'organise. Certains affirment que dès 9 ans, on parlerait aux enfants de masturbation, d'orgasme et même de pornographie. Une certaine Nadougé déclare, je cite, « On veut faire de nos gamins des trans », des propos chocs qui alimentent la peur et la colère de nombreux parents. Mais qu'en est-il réellement ? Ce programme, en place depuis des années, vise avant tout à informer les élèves sur la puberté, le consentement, la prévention des violences et des discriminations.
Ah, ça c'est bien.
Oui. Il ne s'agit pas de parler de masturbation ou de pornographie aux plus jeunes, contrairement à ce que laissent entendre certaines rumeurs. On est donc face à une question de société plus large. Comment informer les jeunes sur ces sujets, tout en rassurant les parents ? Et surtout, comment lutter contre la désinformation ?
Esprit critique.
Société, actualité, les élèves font le tour de l'info.
Esprit critique.
L'actu vue par les élèves.
Quand les élèves décryptent l'info.
Esprit critique.